Partir à l'autre bout du monde ou vivre dans le pays voisin, l'expatriation reste une aventure à part entière. Être bousculé dans ses habitudes, s'adapter à un nouvel environnement, se réinventer professionnellement, se découvrir un peu plus chaque jour, à coup sûr, vous écoutez The Musette, le podcast des expatriés entrepreneurs. Bonjour à tous, je suis Adeline Verdier-Velten, sa fondatrice. Dans ce podcast, vous allez découvrir des histoires de vie, d'envie, des témoignages de femmes qui ont décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat durant cette parenthèse de vie à l'étranger. Courageuse, créative, innovante, solidaire, déterminée, engagée. Bienvenue dans l'univers inspiré et inspirant de nos musettes, nos expatpreneurs aux quatre coins du monde.
À 39 ans, je découvre que mon intelligence émotionnelle est au niveau 5%, d'accord ? Mais pour ce qui est de côtoyer au quotidien des étrangers, des cultures différentes, des managements différents, on est finalement très très isolé. Mon rêve, c'est quoi ? C'est de continuer au Brésil et Amérique latine, mais d'aller aussi en Europe, Portugal, Espagne, France. C'est que quand tu as réussi au Brésil, bah, tu peux réussir partout. Parce que franchement, c'est difficile. Voilà, ça, c'est ce que j'entends. Tous les mois, je change. Il y a un mois, je disais, on va mettre 1 million de jeunes sur notre plateforme pour leur enseigner 2 langues. Mais aujourd'hui, non, on dit, on va mettre 2 millions de jeunes pour leur enseigner 3 langues.
Vouloir former, enseigner, apprendre les langues à des millions d'étudiants. Voilà le projet titanesque dans lequel s'est lancée Alexandrine, fondatrice de Lingopass. C'est depuis Sao Paulo, au Brésil, que ce projet entrepreneurial, que cette mission voit le jour. Avec Alexandrine, nous avons discuté de ce qu'offre la France aux étudiants, elle qui est une fan inconditionnelle de la France et de la langue française, de la difficulté de monter un projet au Brésil, de sa volonté d'aider des millions d'étudiants à accéder à leurs rêves en passant par l'apprentissage des langues, car sans école, sans langue, comment à l'heure d'aujourd'hui peut-on s'ouvrir et s'intégrer au monde ? Une interview passionnante, enrichissante, que je vous invite à écouter et partager. Bonne écoute ! Bonjour Alexandrine et bienvenue sur le podcast de The Musette, oser entreprendre en expatriation depuis Sao Paulo.
Bonjour Adeline, merci pour l'invitation, c'est un plaisir.
Eh ben merci surtout de participer à ce petit jeu qui est sorti de zone de confort, l'interview sur, pour le podcast, c'est pas toujours évident à faire, donc merci. Alexandrine, avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en 2-3 mots ? J'entends par là peut-être ton background au niveau des études et professionnel.
Ok, alors, je suis française, je viens de Paris, je suis universitaire de formation, de vocation, de rêve. Donc, après classe prépa, je suis rentrée à l'école normale supérieure de Cachan à l'époque, Paris-Saclay aujourd'hui. J'ai fait un master en sciences politiques à Sciences Po en parallèle et j'ai commencé une thèse de doctorat. Et mon terrain de spécialité, c'était la Russie. Que j'aime, que j'adore, qui me manque. Et puis, Sciences Po m'a proposé en 2002 de partir au Brésil pour renforcer ce partenariat avec une université partenaire à São Paulo. Je ne parlais pas un mot de portugais, j'ai débarqué, j'ai adoré. Le programme a été élargi à 4 universités et en 2006, j'ai décidé de m'installer au Brésil. Donc, je suis devenue entrepreneur par nécessité. Et j'ai fait de cette, comme on dit en français, de cette nécessité une vertu. Donc voilà, je suis entrepreneur depuis 2007 au Brésil.
Très bien, on va approfondir ce sujet. Juste avant, alors j'avais 2 questions qui me viennent. Là, tu disais que tu aimes beaucoup la Russie. C'est ton pays, un pays de cœur apparemment. Je fais une aparté parce que, voilà, en ce moment, l'actualité fait que. Est-ce que tu as un petit retour à faire là-dessus ?
Alors, j'ai beaucoup été en Russie, surtout entre 2002 et 2005, pour ma thèse. Je travaillais sur l'instrumentalisation politique des crises financières et comment l'augmentation de l'impôt permettait d'observer, et tous les changements dans l'administration fiscale permettaient d'observer ce qu'on appelle l'État au concret, donc observer le fonctionnement de l'État. Donc j'ai eu l'occasion à cette époque de parler avec des députés, des sénateurs, avec des sociologues, avec des économistes, avec des avocats. Et je sentais déjà à cette époque une peur qui commençait avec l'arrivée de Poutine. Voilà. Et puis ensuite, je suis partie au Brésil. J'ai un petit peu, on va dire, j'ai pris de la distance avec la Russie. Je n'ai pas réussi à construire un pont avec le Brésil. C'était mon idée, mais ça n'a pas marché. Et j'ai accompagné de loin. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que c'est une guerre terrible. Et en même temps, ce n'est que l'aboutissement d'un grand plan qui, à mon sens, a commencé déjà à l'époque. Okay. Ce plan de la reconquête des territoires, de l'occupation, d'une souveraineté russo-soviétique perdue, etc. Donc, ce n'est que l'aboutissement. Mais c'est un plan politique. Derrière, il y a une société, il y a une population, il y a des gens qui résistent, mais on ne les voit pas. Ils ont perdu toute visibilité, toute voix. Donc, je parle des Russes, là. C'est terrible pour les Ukrainiens et c'est terrible pour les Russes qui sont seuls. Voilà.
Ouais, mais c'est intéressant d'avoir ton point de vue, surtout que voilà, tu connais bien là-bas. Et alors aussi, je voulais te poser une question parce que alors voilà, tu as aussi répondu à des questions qui sont sur l'article le site The Musette. Et alors à un moment, tu parles de ton expérience où tu as été à Tahiti. Et je suis assez interpellée parce que tu as un gros bagage de connaissances, de savoir, etc., de par les études que tu as faites, entre autres. Et tu te rends compte que là-bas, bah, ça ne t'apporte rien. Et je me dis, il y a une espèce de choc entre les apprentissages culturels, je dirais, et le quotidien. Et donc, je voudrais savoir si tu pouvais développer.
Ouais. Alors, il y a plusieurs éléments. Je crois qui révèle bien ma personnalité. La première chose, c'est qu'en 1998, je suis allée voir ma directrice de département à Cachan et je lui ai dit, voilà, j'aimerais beaucoup travailler sur l'identité culturelle. Et j'ai réussi à obtenir une place à l'Université du Québec à Montréal. Et elle m'a dit, non, pas besoin, enfin bref. Et j'en ai fait une bataille. Et du coup, quand je suis revenue après, je suis revenue pour aller beaucoup plus loin et travailler sur un sujet encore plus éloigné que les sujets que je présentais. Donc, c'était Tahiti, le renouveau identitaire et culturel dans la jeunesse à Tahiti. Donc, un trait de ma personnalité, c'est quand on me dit non, eh ben, je cherche à aller encore plus loin, encore plus vite, à défier, voilà, challenger. Le deuxième, c'est sortir de ma zone de confort c'est très fatigant. Finalement, parce qu'en permanence, je cherche à sortir de ma zone de confort. Je pense toujours à l'après. Et là, en l'occurrence, voilà, j'étais une intellectuelle. Mais vraiment dans le sens français du terme. C'est-à-dire, mon rêve, c'était de rester dans une bibliothèque. Je considérais et je disais que mes meilleurs amis, c'était les livres, c'était les grands philosophes qui étaient dans la bibliothèque. En plus, j'étudiais Henri IV. Alors, c'était magnifique. Il y avait cette odeur de livre. Il y avait c'était cosy. Et, bon. Et j'ai eu la chance d'étudier avec des professeurs incroyables. Mais j'avais conscience que je n'avais travaillé de ma personne finalement qu'un aspect, comme si, vous savez, les petits bonhommes avec la tête énorme sur des petites jambes, voilà. Donc, Tahiti, c'était aussi l'occasion d'aller dans un pays où, en fait, le corps compte énormément. Et quand je suis arrivée là-bas, je me suis rendue compte que, voilà, les femmes, elles avaient cette capacité de danser que je n'avais pas. J'étais rigide. De tisser, de faire des activités manuelles. Et moi, je me suis sentie nulle. Et ça a été très, très bien comme leçon d'humilité. Et aussi comme le choc culturel, prendre de la distance avec sa réalité. Ce sont des sujets, le multiculturalisme, l'un, le multiple, qui m'ont toujours passionnée, que ce soit en philosophie, en sociologie, en sciences politiques. C'est comment on fait une unité avec de la diversité, sans nier la diversité. Et en fait, cette question, elle me suit depuis toujours. C'est comment on fait un citoyen avec des parents qui viennent d'origines très différentes. Comment on en fait un citoyen français? Et ça va jusqu'à aujourd'hui. Comment on fait un citoyen du monde avec des départs qui ne sont pas sur la même ligne? Donc, voilà, oui. L'un, le multiple. Et du coup, le multiculturalisme. Et puis, après, en sciences politiques, quand j'ai travaillé sur la Russie, puis le Brésil, on parle de fédération. Donc, comment on construit une unité, un État, avec vraiment, littéralement, des pays à l'intérieur d'un même État? Avec des cultures différentes, etc.
Ouais, je comprends.
Donc, voilà.
C'était marrant de savoir que, voilà, parce que ma question qui viendrait après, est-ce que tu trouves que quelque part en France, il y a les études sont peut-être trop intellectuelles et peut-être pas assez dans la réalité des choses ou pas?
Non. Je suis la plus grande ambassadrice de l'école avec un grand E française. C'est extraordinaire cette manière qu'on a en France de nous former. Je me rappelle d'un de mes professeurs en prépa, j'ai fait une prépa Hippocagne scientifique, donc à Henri IV, après mes années de lycée. Et ce prof de philo disait, vous êtes ici pour penser, coupez-vous du monde extérieur. Alors, je n'étais pas du tout d'accord, moi. Je ne voulais pas du tout me couper. Mais aujourd'hui, je comprends, par ce que j'observe au Brésil et ce que j'ai vu à Tahiti, l'importance, à un moment donné, d'alimenter ce puits qu'est notre tête en connaissance et de nous forcer à réfléchir, à faire le lien entre des idées. Ça fait mal de réfléchir. Voilà. Sauf que c'est un très, très bon exercice qui prépare pour la suite. Donc, ce que je vois notamment, moi, en comparaison en tant qu'entrepreneur, c'est, par exemple, les Français ont un niveau de productivité qui est bien plus élevé que mes collaborateurs brésiliens. Productivité, pourquoi? Parce que l'école française nous a structurés cognitivement. Elle a formé, façonné notre façon de penser, notre tête. Et pour évoluer sur le marché du travail, et même comme personne, c'est important. Je vois la différence. Voilà. Mmh. Après, on est peut-être moins créatif et on se laisse peut-être moins porter par des idées. C'est dommage. D'où l'idée du mariage franco-brésilien que je trouve parfait.
Ah oui, c'est sûr que je me doute que les Brésiliens, là, niveau créatif, tu vas en parler. Justement, on va parler de ton projet, ou plutôt, comme tu aimes le dire, de ta mission à Sao Paulo. Alors, tu as lancé Lingopass. Alors, c'est un projet titanesque. Hein. Je ne sais pas. En commençant à fouiller un peu, etc., je me dis, mais c'est une montagne très, très haute. Est-ce que, pour ceux qui nous écoutent, tu peux un peu nous expliquer concrètement ce que c'est?
Oui. Lingopass, c'est une plateforme de formation aux langues, donc 100% en ligne, aux langues les plus demandées sur le marché du travail brésilien et latino-américain, qui sont l'anglais, l'espagnol, le français et le portugais, qui réunit dans un seul lieu tout ce qu'il faut pour se former rapidement. Alors, rapidement, ça veut dire maximum 2 ans. Passer d'un niveau 0 en portugais, en anglais, en espagnol, à un niveau avancé. Donc 0, ce serait le 1 sur l'échelle, le CFR, le cadre commun européen des langues, jusqu'au C2, C1, C2, voilà, le plus avancé. Et ça, rien que ça, c'est déjà une gageure.
Oui.
Pensez à quand on devait apprendre une langue. Bon, à l'époque, quand on était en semi-présentiel, le portugais, on l'enseignait en 6 semaines au Brésil. 6 semaines. On a formé énormément d'étrangers à la grande époque du Brésil, donc au début des années de 2010. Alors, quand je dis qu'il y a tout dans cette plateforme, il y a tout parce qu'il y a en même temps une plateforme e-learning où vous pouvez évoluer dans chaque niveau, divisé en 12 étapes, avec des étapes d'évaluation, avec un dictionnaire intégré, des activités interactives avec du feedback immédiat, des vidéos explicatives, des quiz. Donc, il y a tout pour pouvoir, vous avec votre machine, la plateforme, en one-to-one, vous former. Ensuite, il y a du tutorat. Du tutorat en asynchrone, donc vous pouvez envoyer un chat, un message, et du tutorat sous forme de rencontres real-time avec un tuteur qui est là pour répondre à vos questions en direct, etc. Ce qui permet aussi de rencontrer d'autres élèves en même temps, d'écouter les autres questions. Et il y a des cours de conversation en ligne du lundi au samedi. Alors, finalement, ça, c'est pas nouveau. Il y a plein d'autres plateformes qui le font et qui l'offrent, ce service. Mais nous, on le fait différemment. Comment? Parce que derrière ce qu'on voit qui est une plateforme avec tout dedans pour se former rapidement aux langues, derrière, il y a l'union du meilleur de la pédagogie avec le meilleur des neurosciences et du coaching de performance. On a étudié le profil des 25 000 étudiants qu'on a formés depuis 2010.
Ah oui.
On a décelé 3 grands types de personnalités, les profils beaucoup plus empathiques, des profils plus analytiques, des profils plus promoteur orienté challenge. Et pour chacun de ces profils, à l'intérieur de la plateforme, que ce soit le contenu, donc la façon, hein, la façon de communiquer le contenu, les couleurs, la disposition, les fonctionnalités, chaque élément de la plateforme a été pensé et intégré pour répondre et pour motiver chaque type de personnalité. Donc, c'est de l'adaptativité, c'est un niveau d'adaptativité qui n'existe pas dans d'autres plateformes. Vous entrez, si vous êtes orienté challenge, vous avez le ranking pour voir où en sont les autres. Vous avez des formulations d'activités qui sont orientées « je parie que tu n'arrives pas à le faire » ou voilà. Et pour les profils analytiques qui représentent quand même 65% de nos élèves, on forme beaucoup de militaires, de policiers, d'avocats, de professeurs, de développeurs aussi. On a vraiment structuré de manière très organisée nos trails, les cours. Voilà.
Ouais,
donc, c'est cette technologie-là, on ne la voit pas, c'est notre cuisine derrière, mais en fait, c'est ce qui permet aujourd'hui d'engager. Et c'est ça qu'on attaque. C'est la douleur de l'engagement en e-learning. C'est votre capacité à vous concentrer plus de 25 minutes tous les jours sur une plateforme. Et c'est la question, le problème n'est pas seulement dans les langues, il est dans toutes les compétences. C'est pour ça que j'aime bien dire aujourd'hui on travaille avec les langues parce que c'est facile. Puis on sait faire. Mais c'est un cheval de Troie. En rentrant dans les entreprises, puisque notre modèle il est orienté B2B avec des langues, on pourra enseigner beaucoup plus que des langues. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait, puisque chaque niveau correspond à un univers culturel. En espagnol, par exemple, le A1, c'est Espagne. Donc, le professeur dans les vidéos, il est espagnol, les podcasts sont espagnols, etc. Il y a tout un élément sur l'Espagne. Le A2, c'est Mexique, B1, Colombie, etc., etc. On permet de faire le tour du monde. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une région du monde qui est extrêmement fermée.
Ok.
En France, vous recevez... Toi, tu es à Dubaï, mais en France, on reçoit, hein, près de 80 millions de touristes par an au Brésil. Je crois qu'on en est à 6 ou 8 millions. Donc, on est extrêmement isolé quelque part ici. On a accès à Internet, mais pour ce qui est de côtoyer au quotidien des étrangers, des cultures différentes, des managements différents, on est finalement très, très isolé. Donc, on fait venir le monde au Brésil au moment où le monde ferme ses frontières. C'est un peu le message.
Donc, on est bien d'accord que ceux qui nous écoutent, c'est un travail titanesque. Je suis en train de me dire, mais attends, mais comment... Enfin, c'est toi qui as eu l'idée de toutes ces... Comment dire cette cuisine derrière, tout ça. C'est toi qui t'es dit, bon, il va falloir trouver... trouver chaque type de personnalité, comment ils sont, trouver...
C'est intéressant et je pense que ça peut intéresser les auditeurs. Qu'est-ce qui s'est passé donc voilà, parcours d'une intellectuelle qui ensuite par nécessité devient entrepreneur, en fait une vertu, tout ça. Puis un jour, à 39 ans, je me réveille. J'ai ma deuxième petite fille qui naît. Et là, je me dis, mince, je ne sais pas lui parler. je vais avoir de graves problèmes au moment de l'adolescence. Que dois-je faire? Voilà. Donc, comme je suis orientée action, je me dis, que dois-je faire? Bon, bah, je vais apprendre déjà à me connaître, à mieux communiquer. Donc, je suis partie sur un parcours. Je le raconte pas du tout, mais c'est intéressant. Je suis partie sur un parcours d'autoconnaissance à 39 ans. Et j'ai découvert l'émotion à 39 ans.
Mais c'est hyper intéressant de savoir que tu as attendu quelque part 39 ans. On n'est pas obligé faire à 20 ans. Trouve-toi.
Mais maintenant, si je le savais, je l'aurais fait plus tôt. Pour éviter des déboires de communication. Et du coup, à 39 ans, je découvre que mon intelligence émotionnelle est au niveau 5%, d'accord ? Que mon estime de moi, que mon... bref, je me trouve géniale, je suis toujours au top. Alors là, à 110%, par contre, intelligence émotionnelle, 5%, je n'arrive pas, quand je regarde quelqu'un, à comprendre et même à sentir son émotion. Et là, je me dis, ça ne va pas. C'est un énorme handicap. Il faut que je change. Et donc, je suis partie sur un parcours de coaching, connaissance. Et quand je fais les choses, je les fais à fond. Donc, coaching, ICF, d'abord le premier niveau, puis le niveau PCC. Et puis ensuite, j'ai fait plein d'autres formations en programmation neurolinguistique à l'Institut Repère. Et puis, une formation qui s'appelle l'excellence dans l'action à l'Institut Repère que je recommande. Et là, j'ai découvert énormément de choses sur moi. Et comme je ne sais pas faire autrement, je me dis, mais là, il y a quelque chose à faire dans l'éducation. Si j'apprends, moi, à me motiver, à me ressourcer, à même à motiver les autres, en fait, en tant que coach, de high performance, alors, ouais, ouais. On doit pouvoir le faire aussi en ligne pour tous les talents, les professionnels qui rentrent sur une plateforme. Ils ne rentrent pas. Tu n'étudies pas une langue, là. Moi, j'étudie le russe, l'hébreu, l'espagnol, l'anglais, juste pour la langue, mais tu l'étudies pour un rêve, pour un objectif, et parfois tu ne l'as pas, mais la langue et le prof, il est là pour te faire ressortir ce rêve, ou le faire naître, ou l'alimenter, etc. Donc, c'était, je trouve, très aligné à ce que c'est qu'une école dans son essence. Elle te fait grandir, elle te fait avancer. Et la question dans l'éducation, c'est pas le pourquoi, parce que ça, on le comprend, c'est le comment, c'est la cuisine. Et là, je me suis dit, OK, c'est à nous, profs, d'engager. Alors, comment engager ? Il y a des outils dans d'autres domaines qui sont coaching, théorie de la communication, qu'on peut faire venir. Là, j'ai commencé à fréquenter des congrès d'éducation et technologie. Et je me suis rendu compte que ce modèle adaptatif en fonction du profil de personnalité, eh ben, je ne le trouvais nulle part. Donc, je me suis dit, là, il y a une belle innovation à faire. Donc, en fait, Lingopa, c'est notre laboratoire d'expérimentation d'un modèle d'adaptativité en fonction adaptativité de l'enseignement, de l'apprentissage en fonction du profil de personnalité qui s'appuie sur l'observation de les profs quand ils sont les meilleurs profs jusqu'aux théories de la communication, neurosciences, les enseignements du coaching de performance, etc. Donc voilà, tu vois, c'est comment tu fais d'une déficience, d'une vulnérabilité, une force. Mais je regrette un peu d'avoir découvert ce mot à 39 ans. Je me suis un peu améliorée, mais j'ai encore du chemin à faire.
Non, mais c'est passionnant. Alors, ça me fait penser deux choses. Déjà, tu disais, c'est B2B. Les personnes lambda, comme moi, comme le voisin, etc., qui auraient envie de s'améliorer en langue, c'est pas pour eux la méthode ? Ou pour l'instant, c'est pas avoué à B2C, entre guillemets.
Si, non, alors tu as tout à fait raison. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup d'individus. Et le marché de la formation au Brésil, il est très individuel. En France, on a des subventions et tout ça. Bon. Mais au Brésil, ce sont les individus qui choisissent de se former. Fait qu'en fait, ce qu'on fait, c'est que notre modèle, il est B2B, Lingopass. On a créé en parallèle une offre de formation en B2C. C'est un petit peu plus cher, mais c'est disponible. Et il y a un espace d'accueil ouvert à tous qui s'appelle Lingoverse, un peu notre métaverse numéro 1, où toi, si tu veux, tu peux, de 8h à 21h et bientôt 24h sur 24, participer aux événements et découvrir le fonctionnement de la plateforme. Parce que finalement, pourquoi le B2C, on ne voulait plus travailler, ça coûte cher. Ça coûte cher d'aller chercher Adeline, Robert, un par un, de les accompagner en leur montrant comment ça marche, leur vendre le produit et puis ensuite les retenir, les engager, tout ça. En one-to-one, ça coûte cher. Et le temps, la lifetime value, comme on dit, le temps que tu passes, finalement, il est réduit puisque justement, on fait bien notre boulot. En 2 ans, tu sors de la plateforme, tu as appris une langue. Bon. Alors que pour nous, c'est beaucoup plus simple. J'ai un client, il a 1000 collaborateurs. Je les intègre en une semaine sur la plateforme et on les accompagne par cohorte. C'est plus simple. Mais on veut fermer les portes à personne. Donc, Lingoverse a ouvert ses portes. Tu rentres et là, tu as la démo de la plateforme, ensuite un workshop, ensuite un exemple d'un cours de conversation. Et là, si tu aimes, tu cliques sur un bouton et tu achètes en e-commerce ton cours. Voilà. Comme ça, il y en a pour tout le monde. On ne ferme pas les portes. Mais en même temps, ça, on passe pas nos journées à répondre aux demandes individuelles.
Oui, je comprends.
Pour le dire simple, on est automatisé.
Ah bah, au bout d'un moment, non mais bon, c'est tellement, enfin bon, bref, 25 000 étudiants, je rappelle que vous avez observé pour pouvoir faire tout ça, donc c'est juste énorme. Mais je me disais aussi, puisque c'est une méthode qui marche sur plusieurs, enfin, axes, enfin, le coaching, les personnalités, etc., est-ce que c'est pas quelque chose que tu aurais pensé à proposer dans des écoles ? Parce que, au niveau de l'apprentissage de la langue, et puis même par rapport à... Et bah, prendre confiance en soi et savoir tout de suite et bah, pas attendre 39 ans pour savoir qu'on est déficient ou pas en émotion, etc.
Si, tout à fait. D'ailleurs, quand on pense à nos cibles de clients, on pense aux écoles et universités. Et quand je pense écoles, je pense aussi et notamment aux écoles techniques. Alors, je regarde plus le marché brésilien, les écoles techniques pour des jeunes de 15 à 18 ans. Ce serait génial qu'ils sortent de l'école avec déjà une ou deux langues étrangères, sachant qu'au Brésil, le taux de pénétration de l'anglais est de 5%, en Colombie, 4%. Donc, il y a un énorme, énorme marché. Là, pour ce qui est du secteur public, on va dépendre d'un choix qui devra être politique ou de politique publique. Après, je regarde aussi les écoles privées. Et on a comme client, d'ailleurs, deux écoles. Une école qui forme des professionnels en transition de carrière vers les métiers de programmation, de cloud, et tout ce qui a lieu, et tout ce qui a trait au digital. Mmh. Et on a commencé avec 80 élèves. Le programme a tellement bien fonctionné de faire du English Tech, donc anglais plus tech, que là, on est à 350 élèves et on va augmenter parce que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils forment et ça coûte rien pour l'élève, d'accord ? Eux, l'école, c'est notre client. Mais ensuite, eux vendent ces profils sur un marché du travail où la main-d'œuvre qualifiée en TI, il n'y en a pas beaucoup en fait. Il y en a de moins en moins, donc au Brésil. Et donc, ils forment ces professionnels et ils les vendent beaucoup plus cher maintenant qu'ils parlent anglais. Donc, c'est lucratif pour l'école. Voilà. Donc ça, c'est un deuxième modèle. On vend donc à une école donc, qui forme des professionnels en transition de carrière. Et on a aussi comme client une école qui a comme spécificité d'avoir développé un système de formation bilingue. Le bilinguisme a été mis à l'agenda public au Brésil il y a quelques années. Ça fait partie des orientations. Et maintenant, les écoles, pour pouvoir continuer à s'appeler bilingues, doivent avoir justifié d'un niveau B2 de leurs professeurs. Donc, nous, on forme les professeurs.
Ok, je comprends.
Et l'idée, l'école nous a proposé d'entrer avec un produit double, donc eux vont rentrer avec le système de formation bilingue, donc c'est du contenu auprès de leurs 450 clients, clients au Brésil. Et ils vont proposer Lingopass en parallèle comme un différentiel compétitif sur un marché de la formation bilingue qui est en pleine croissance, mais où en fait, là, c'est la guerre des prix. Donc nous, on rentre comme un différentiel compétitif. Voilà. Mon rêve, c'est quoi ? C'est de continuer au Brésil et Amérique latine, mais d'aller aussi en Europe, Portugal, Espagne, France. Taux de pénétration en France, de l'anglais, 50%. Il y a encore du chemin à faire.
Ah oui.
Au Portugal, c'est pareil. Les Brésiliens qui arrivent en masse au Portugal, il y a beaucoup de Brésiliens qui sortent du Brésil, ils arrivent au Portugal. Ils ne dominent pas ni le français, ni l'anglais, ni l'espagnol. Donc, on peut les former à trois langues et rapidement. D'accord ? Bon. Mm-hmm. Donc, en ce moment, j'échange avec Laurent Vronsky, qui est une personne que j'admire énormément, pour pouvoir... dans quelques années, offrir des cours de langue, donc anglais, espagnol et portugais pour étrangers, aux jeunes, on va dire, des zones défavorisées en France, qui finalement vivent le même, bon, à des degrés différents, mais vivent cette désespérance qu'on retrouve chez les 15-29 ans au Brésil, voilà, l'absence de rêve, et donc... L'idée, c'est redonner du rêve via la langue, donc l'ouverture vers autre chose.
Ah oui, donc c'est ça. Donc ma question était de dire, donc pour toi, l'apprentissage d'une langue, en fait, c'est la clé pour un avenir meilleur.
C'est la clé pour un présent meilleur. Parce que ça ouvre des fenêtres sur d'autres réalités. Ça rend des projets qu'on n'imaginait pas, en fait, possibles. Tiens, pourquoi je ne ferais pas un échange en Argentine, dans une université, partenaire de mon université ? Pourquoi je n'irais pas jeune fille au pair aux États-Unis, passer un an ou deux ans ? Bon. Donc, ça déjà, rien que le fait de se projeter, ça rend le présent meilleur et acceptable. Après, la langue est un outil, est une arme pour pouvoir le réaliser, ce projet. Il faut, dans un dossier de candidature, à un moment donné, mettre certificat, niveau de langue, etc. Donc, souvent, c'est une barrière. Et là, c'est la solution. C'est le bout de papier qui dit, vous avez votre niveau B2, C1, etc. C'est une arme. Ça donne du pouvoir. Et là, hop, ensuite, vous réalisez votre projet. Puis après, tout est possible parce que un détour culturel change tellement une personne et change tellement une vie. Je dis toujours à mes élèves au Brésil, je leur disais, bon, moi, je vous donne des clés, là. Après, vous allez parcourir le monde, vous allez rentrer à Sciences Po, puis ensuite, vous allez faire des stages, puis ensuite, je ne sais pas, peut-être que vous ne reviendrez pas. Mais une chose est sûre, vous serez des Brésiliens qui auront du pouvoir, de la visibilité de la voix sur la scène internationale, et vous serez les ambassadeurs de cette culture française humaniste dont je vous ai passé un peu d'essence là, avec ces cours de méthode, ces cours de grands enjeux du monde contemporain. Parce que,
Ouais, non, c'est passionnant. Je me posais la question aussi, est-ce que c'est difficile de monter un tel projet, une telle mission, business, enfin, comme tu préfères le dire, dans un pays où d'extérieur, parce que moi je le vois d'extérieur, je ne suis pas encore allée au Brésil, où la situation politique, elle semble fragile. Alors je mets fragile parce que voilà, je ne sais pas, voilà, on va mettre ça comme ça. Est-ce que tu as eu des obstacles aussi? Parce que voilà, c'est tellement grand ce que tu fais, tellement tu donnes leur clé à tous ces Brésiliens pour qu'ils aillent faire leurs rêves et peut-être ailleurs. Voilà, comment ça se passe là-bas?
Alors, j'aime bien tes questions. Alors, je vais prendre le bout. Alors, d'abord, je suis arrivée universitaire au Brésil, donc confortable, j'étais payée en euros, etc. Voilà. Et puis, j'ai décidé de rester. Mais parce que je voulais vraiment rester, parce que je voyais qu'il y avait une opportunité. Bon. Ensuite, j'ai appris à faire des affaires, à devenir entrepreneur au Brésil. Donc, moi, je ne sais pas comment c'est de faire des affaires en France, aux États-Unis ou en Colombie, tu vois. Donc, je n'ai pas cette distance-là qui permet de me dire « Ah, c'est difficile ». Par contre, ce que j'entends, c'est que quand tu as réussi au Brésil, bah, tu peux réussir partout. Parce que franchement, c'est difficile. Voilà, ça, c'est ce que j'entends. Alors, qu'est-ce qui est difficile? Je vais citer deux, trois éléments quand même. Hein. Je suis arrivée en 2002. Donc, 2002 jusqu'à 2021, ça fait plus de 20 ans. Quelques petits éléments comme ça. Inflation. Quand du jour au lendemain, ton propriétaire, il vient et il te dit « Ok, tes bureaux, là, c'est 20% d'augmentation de prix. » Et que tu ne peux pas négocier parce que tu as ton équipe qui est là. Bon, donc voilà. Ça, c'est un exemple, tu vois, très concret. 20% d'augmentation. Deux, un jour, on te dit, bon, finalement, maintenant, il faut payer cet impôt. Puis, 3 ans plus tard, on te dit, non, mais en fait, il ne faut pas le payer. Bon, alors, moi, je choisis d'être conservatrice, donc je paye l'impôt pour ne pas avoir ensuite à me battre. Voilà. Donc, instabilité fiscale. Instabilité économique et financière. Taux de change, hein, si tu veux, on est passé d'un taux de change de 2,8. Donc, voilà, chaque outil que j'achetais sur le marché international, HubSpot, Salesforce, tu vois, des CRM, des ERP, des softwares que j'achetais, je payais en euros et qui me coûtaient 2,8 fois le prix en reais, tout à coup, là, il y a quelques mois, je l'ai payé 6 fois. Non, mais HubSpot, c'est très, très cher, HubSpot, comme outil de CRM. Ouais. Donc, voilà, si tu veux, si tu viens au Brésil pour faire des affaires et tu n'as pas de capital, et puis, comme moi, tu n'as pas de formation business, tu n'as pas de formation en marketing, tu n'avais pas de contacts étrangères, etc. C'est compliqué. C'est pas impossible. Et là, j'ai dit, heureusement que j'ai été bien préparée en France, dans les classes préparatoires intensives aux grandes écoles, et notamment à Normal, Hippocane scientifique, quand tu viens de ES, hein, parce que tout le monde disait, non, mais surtout, fais pas ça, c'est pas possible, tu vas pas réussir tout ça. Bon. Et j'ai été bien préparée. Et là, je me suis rappelée ces deux dernières années en créant Lingopass, comment c'était la prépa que j'avais juré de plus jamais revivre. Mais comment c'était? Tu dors plus, tu es à fond sur un projet et il ne faut pas lâcher. Donc, résilience, résistance. Donc, plutôt que de parler des difficultés que j'ai citées, inflation, discrédit des autorités politiques, instabilité, manque de productivité des collaborateurs, etc. Bon. J'ai envie de dire, c'est quoi la clé pour s'en sortir? Les points de départ, résilience, capable de surmonter une difficulté, un échec, en apprenant très vite et en utilisant ces apprentissages. Résistance physique, il faut une sacrée résistance physique parce que du coup, la quantité de travail, elle est je pense... Et puis même, il y a une culture de la quantité de travail ici, si tu veux. Un employé ici, il travaille 44 heures, pas 35. Mais 35, ça paraît ésotérique, c'est tropical. et puis résistance, résilience, et puis savoir s'entourer en fait pour apprendre très vite. Donc dans toutes les étapes de l'entreprise et même de ma vie au Brésil, en fait, j'ai toujours cherché, voilà, ce qui va faire la différence ici, c'est de s'entourer, de chercher les bonnes personnes qui ont les bons contacts et les bonnes idées, qui sont déjà passées par les situations par lesquelles tu es passé. Donc, en fait, Ça, je l'ai compris très, très vite. Et en 2008-2009, j'ai commencé à m'entourer de mentors que je suis allée chercher sur... Donc, ça peut être des entrepreneurs, des investisseurs, des managers de grosses boîtes de différents niveaux. Et j'organisais des sessions de déjeuner, mais très, très, très vite. Et je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidée.
Ah oui, donc tu as été les voir, les entendre, vous voulez être mon mentor ?
Oui, exactement. Bonjour, j'ai besoin d'aide. En fait, j'ai dit j'ai besoin d'aide parce que là, je suis face à des sujets que je ne maîtrise pas, je ne connais pas, dans un pays qui occupe les dernières places dans le ranking des positions de où entreprendre parce que tout est plus long, tout est plus bureaucratique, tout est plus instable, tout est plus coûteux. Je ne sais pas faire. Par contre, vous avez monté le bureau Michael Page, Brésil, puis Amérique latine. C'est un autre niveau. Mais justement, comme c'est un autre niveau, vous avez sûrement des idées. Ou alors vous êtes franco-brésilien, vous connaissez un peu les deux cultures. Là, en termes de management, je suis un peu perdue. Je sais pas, mes collaborateurs sont très engagés, mais peu compétents. Qu'est-ce que je dois faire? Bon. Donc, suivant les cas, ces mentors me présentaient ou des modèles théoriques ou leur retour d'expérience. Et c'est ce qui m'a le plus aidée. Et encore aujourd'hui, en fait, je me suis créé un réseau de mentors.
Donc ça, j'imagine que ça doit être très précieux. Combien de personnes maintenant travaillent avec toi au développement du projet ?
Ouais. Alors aujourd'hui, full time, on est 34. Il y a 34 personnes. On est tous en home office dans tout le Brésil. Et puis, alors 34 personnes, c'est vraiment la cellule qui est. Là, on est plus à 40. On est plus à 60 heures qu'à 44 heures par semaine. Et puis après, on a ce qu'on appelle du staff on demand, parce qu'un des modèles que j'ai utilisé, ça je ne l'ai pas cité, mais c'est quand même important, comme je ne connaissais rien en management, du coup je me suis auto-formée, donc j'ai lu des bouquins de management, et il y en a trois que j'adore. Le premier, c'est Blue Ocean Strategy, c'est comment créer ton, tu sais, c'est la stratégie de l'océan bleu, c'est comment te différencier de la concurrence en la connaissant tellement bien que tu arrives à tourner le dos dans le sens, tu connais très bien tes concurrents, et toi, tu fais mieux et différemment, et tu fais plus. Voilà, donc ça, c'est ça. Il y en a un autre qui s'appelle Traction, How to get grip on your business. C'est comment tu tractionnes ton business, et comment tu structures toute ton organisation. Il est super, ce livre. Et puis, il y en a un troisième qui est Organisation exponentielle. Ah, fantastique, ce livre, Organisation exponentielle. Donc, c'est comment tu construis un projet, une entreprise qui est la plus agile possible et en même temps avec une vision et une capacité d'escale, scaling énorme. Donc, une des premiers éléments dans ce modèle, c'est l'organisation, la gouvernance, c'est un noyau dur, très engagé, très compétent, plus du staff on demand. Tu vois, tous nos profs, les tuteurs, ceux qui font du contenu. Puis imagine, on a quatre écoles, donc en permanence, on fait du contenu vidéo, du contenu audio, du contenu écrit, des images, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de gens. 34, plus on doit avoir une cinquantaine de collaborateurs qui sont ponctuels. Parfois, ils collaborent juste une fois. Par exemple, on a un cours, le cours de Guinée équatoriale. Notre dernier niveau d'espagnol, c'est Guinée équatoriale. Bon. On a eu besoin de voice-over, et puis on a eu besoin de prof. Bon, il est intervenu une fois. En même temps, toutes ces personnes qui rentrent comme ça par la petite porte d'une mission ponctuelle, quand on a l'occasion d'observer, les observer en acte, au concret, et on arrive à déceler leur potentiel que parfois eux-mêmes ne voient pas, et de les accompagner pour qu'ils fassent plus. Donc, c'est une espèce d'aspirateur de talent. Et je vais citer un cas, tu vois. Nous venons d'associer avec mon associé une jeune femme qui s'appelle Susanna. Elle est rentrée pour une mission ponctuelle. Ça faisait 2 ans qu'elle nous envoyait son CV. Elle voulait absolument travailler avec nous. Bon. Mais je trouvais par le CV, le bout de papier, qu'elle n'avait pas vraiment le profil. Bon, bref, elle est rentrée, elle a fait une mission incroyable, un potentiel énorme, une proactivité, une agilité, et puis un sens du design, de l'esthétique, plus la passion pour l'enseignement. Bref, elle a fait son petit chemin, on parle d'un an, hein. Elle vient d'être associée à Lingopass, on est 4 associés aujourd'hui, 2 femmes, 2 hommes, 2 japonais et 2 femmes. Donc ouais, voilà, c'est ça, cette espèce d'aspirateur à talent qui rentre par la porte du staff on demand, ensuite nous permet de les intégrer au noyau dur, et puis voilà, de déceler des pépites.
Ah non, mais c'est super. Et justement, je me pose la question, comment tu choisis les personnes qui t'entourent, en tout cas pour le projet Lingopass, parce que, enfin voilà, c'est tellement... Tu investis beaucoup, les élèves en tout genre comptent aussi dessus. J'imagine qu'il faut avoir voilà, des bons profs, des bons associés, des bons... tout ça pour que ça, roule et puis pour que tu puisses développer comme tu veux et atteindre le rêve de pouvoir le mettre ailleurs, voilà, le mettre en France, en Espagne, au Portugal et voir après jusqu'en Asie.
Eh bien voilà, deux réponses. La première, c'est que, en fait, le RH, c'est vraiment, c'est l'or. Le RH, quand je dis, c'est la ressource humaine. Hein. Les collaborateurs, c'est l'or de ta boîte, en fait. C'est vraiment la ressource principale. En fait, tu fais n'importe quoi quand tu as les bonnes personnes. Tu pivotes, tu crées, tu penses, tu imagines, tu testes. Donc, voilà. Donc, le recrutement est vraiment la clé du succès d'une entreprise. Recruter les bonnes personnes et s'appuyer sur leur talent. C'est si tu recrutes la bonne personne, mais tu lui dis non, alors tu n'es pas assez orienté process, tu vas te former pour. Ça ne marche pas. Donc, ça, je l'ai appris dans mes années de découverte et notamment dans. Ah oui, avec Gallup, l'Institut Gallup. Il y a un bouquin qui s'appelle Les points forts. Il y a un test, un assessment. Donc, moi, aujourd'hui, on a des formulaires un peu partout. Je diffuse énormément de jobs sur LinkedIn. Je demande encore aujourd'hui, parce que notre équipe est encore petite, à participer à tous les process de recrutement à un moment donné pour vérifier l'alignement avec les valeurs et la culture de l'entreprise. Okay. Donc, on reçoit plein de CV et ensuite, chaque manager fait son choix. Et ensuite, il y a des entretiens justement pour vérifier l'alignement, etc. Et un test de profil. Et les tests de profil nous révèlent les points forts de ces candidats et les zones de stress et comment ils se comportent en stress. Et donc, on fait très, très attention à garder une composition de notre team qui maintient de la diversité de profils. Tu vois, moi, par exemple, je n'ai pas beaucoup d'empathie, je n'ai pas beaucoup d'intelligence émotionnelle. Alors, je cherche des collaborateurs qui ont cette énergie-là pour balancer, pour équilibrer. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est Lingopass. Lingopass, ce n'est pas seulement une plateforme de formation, c'est une plateforme de sélection. Donc, on met nos candidats où on observe chez nos élèves, notamment les élèves qui viennent des écoles, leur comportement sur la plateforme. Et notamment, on a lancé un programme social où on a signé des partenariats avec 21 ONG dans tout le Brésil et on a offert 150 bourses à des jeunes, on dirait en français des jeunes de favela. D'accord ? Et donc, on a accompagné ces 150 jeunes sur la plateforme et moi, parmi les 150, je me disais, mais il y en a trois là, ils sont super en avance. Donc, j'ai observé le comportement sur la plateforme, croisé les données avec leurs notes, avec leur assiduité, avec la progression, etc. Et je me suis dit, ils sont quand même outstanding, ils sont quand même vraiment différents, high performer. OK. Et là, j'ai demandé à parler à ces trois personnes. Et quand j'ai échangé en entretien d'embauche, en fait, en disant, bon, parle-moi un petit peu de toi, qu'est-ce que tu fais, tout ça. C'était le même discours. Ben non, ben en fait, j'ai jamais travaillé, je ne sais pas faire grand-chose. Voilà. Deux femmes, un homme. Deux femmes noires et un homme. Et je leur ai dit, OK, bon, ben c'est quand même étonnant. Et en entretien, j'ai découvert qu'en fait, ils se sous-valorisaient. Bon. Et je me disais, c'est assez étonnant. Donc, on a donné une mission à chacun. Et puis, bah, aujourd'hui, ce sont trois collaborateurs qui sont full-time dans cette équipe de 34 personnes et qui sont très, 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 très bons, qui ont appris en... Là, en l'occurrence, on a deux jeunes femmes qui travaillent dans Customer Success. Elles ont appris le métier en deux semaines. Donc, on utilise notre plateforme comme un outil de recrutement pour nous et maintenant pour nos entreprises clientes.
Très intéressant, ça. Très, très intéressant. Qu'est-ce que tu as ressenti une fois que tu as vu que le projet était vraiment lancé et que tu t'es dit, bon, voilà, là, on est passé à un stade supérieur, là.
Alors ça, c'est très récent. Hein. Lingopa est né en juillet 2021, en pleine pandémie, après 2 ans et demi de travail, préparation, création, tout ça. On a commencé à intégrer les premières entreprises à vendre, les élèves, en septembre. Et là maintenant, je dirais, ça y est, janvier, février, on a complètement pivoté, on a lancé Lingoverse, etc. Je dirais, c'est, je ne sais pas comment dire, c'est ouf. Ouf, ça y est, c'est fait. on a réussi le pari, hein, on a réussi à monter la montagne, on est arrivé au sommet dans le sens où on a réussi à mettre en œuvre le projet, la vision. Et maintenant il nous faut des, tu sais, un gros ballon rempli de gaz pour pouvoir aller chercher 1 ou 2 millions de jeunes talents de tout le Brésil et même de Colombie et du Mexique, les mettre dans la plateforme et leur permettre de se découvrir, de découvrir une langue très vite et de croiser toutes les données de comportement qu'on verra sur la plateforme de ces jeunes avec leurs données sociodémographiques, des données de profil, pour pouvoir monter des clusters et présenter des profils aux entreprises. Tu vois, on n'est pas seulement dans un business de formation, c'est un business qui met en avant l'employabilité. L'idée, c'est ça, c'est faire de la sélection.
Oui, c'est aller au-delà. Ouais, bien sûr, je comprends. Avec le recul, tu penses que tu as bien fait d'oser te lancer dans l'entrepreneuriat, qui plus est à l'étranger, et d'avoir un peu mis de côté tout le parcours, je dirais, intellectuel que tu allais faire, rester dans la bibliothèque, etc.
Écoute, si j'avais su ce que c'était, je ne suis pas sûre que je l'aurais fait, en fait.
C'est vrai.
Je suis pas sûre. Non, parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de sacrifices personnels. Vraiment beaucoup. Bon, et puis, c'était la fin du rêve de rentrer, d'intégrer le CNRS avant 40 ans, etc. Donc, je ne sais pas, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait. Une chose est sûre, ça m'a changé, ça c'est sûr. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment changé comme personne, comme professionnel. Ça m'a ouvert à énormément de champs qui sont très éloignés de ceux que je connaissais, la sociologie, l'économie, la philosophie, l'anthropologie. Donc, comme je suis curieuse, j'aime bien découvrir. Bon, ben là, c'est marketing, finance, fiscalité, tout ce que tu peux imaginer, vente. Voilà. Donc, ça, c'est super. Maintenant, si j'ai créé une école, en fait, ce n'est pas par hasard. C'est que je pense que je ne voulais pas en sortir. Et à l'intérieur de cette école, en fait, je m'occupe la casquette. J'ai la casquette de CEO, mais j'ai aussi la casquette de responsable de l'innovation et des nouveaux projets, pour pouvoir garder un pied dans l'académie,
dans l'enseignement, aussi,
dans l'université, dans l'enseignement et la recherche. Donc, je pense que j'étais déjà entrepreneur, tu vois, dans l'âme.
Ouais, au final.
Mais que j'avais tellement peur en France que je me disais, non, je vais devenir fonctionnaire public, ce que je suis devenue d'ailleurs, comme ça je pourrais avoir du temps et puis faire un job qui me plaît, mais à mes conditions, etc. Et puis au Brésil, c'est comme si j'avais sauté à l'élastique, mais sans élastique. Et là, il faut tout de suite apprendre à voler. Donc en fait, voilà, j'avais en France des ailes. L'école m'a donné des ailes. Mais je pense que je ne les avais pas trop utilisées pour voler. Et ici, en fait, j'ai dû les déployer très, très vite pour pas me fracasser par terre.
Donc, on revient au début. En effet, voilà, les études en France ont servi, mais la créativité et le challenge au Brésil t'ont permis de t'épanouir et de te lancer.
Oui, et puis de n'avoir plus peur. Maintenant, je n'ai plus peur de rien. Je n'ai plus peur même de me dire... Tous les mois, je change. Il y a un mois, je disais, on va mettre 1 million de jeunes sur notre plateforme pour leur enseigner 2 langues. Mais aujourd'hui, non, on dit, on va mettre 2 millions de jeunes pour leur enseigner 3 langues. Et si tu regardes ce que j'ai écrit, j'ai dit, on va mettre 47 millions de jeunes pour leur enseigner 3 langues. Donc, j'ai plus peur.
Oui,
parce que le Brésil, il offre... Le Brésil, tu me posais la question dans le texte, qu'est-ce qui te plaît? Mais c'est ça, c'est de l'énergie, c'est de l'oxygène ici. Tu présentes une idée, c'est toujours la meilleure du monde. C'est génial,
c'est enthousiasmant.
C'est
ce que j'allais dire, c'est enthousiasmant, ça donne envie de le faire.
Surtout pour des surtout pour des profils de personnalité comme le mien, qui est très, j'ai beaucoup d'énergie qu'on appelle spontanée ou rebelle dans, dans la process com, beaucoup d'énergie promoteur, donc orientée challenge. Donc c'est fantastique. Je pense que le Brésil est très adapté à ma personnalité en fait.
C'est bien, vous êtes bien trouvé. je voulais finir sur sur deux choses. Est-ce que tu as reçu un conseil qui t'a aidé, et toi à l'inverse, est-ce que tu aurais est-ce que tu aurais un conseil à donner?
Alors le conseil qu'on m'a donné, c'est un conseil que j'ai lu en fait. C'est Boris Cyrulnik qui parle du rêve et comment le rêve est porteur et comment le rêve peut sauver ces générations de jeunes en désespérance. Et c'est quelque chose que j'avais en moi déjà, de petite fille, c'est rêver. Moi, j'ai toujours beaucoup, beaucoup rêvé, pensé, imaginé un monde meilleur. C'était pas forcément pour moi d'ailleurs, c'était vraiment comment je pourrais faire la différence. Et le conseil, c'est le conseil de Boris Cyrulnik, c'est rêver. Et faites naître le rêve chez l'autre. Voilà. Donc, je suis et je reste dans l'éducation pour faire naître le rêve chez l'autre, qu'il puisse devenir lui-même un porteur de rêve, qu'il puisse former aussi d'autres générations, de telle sorte à ce qu'on contribue chacun à sa petite mesure, tu vois, à rendre le monde meilleur. Je pense qu'aujourd'hui, c'est d'actualité.
Oui.
voilà.
Et le conseil que toi tu voudrais donner, c'est la même chose, tu voudrais poursuivre cette idée.
Le conseil que je voudrais donner.
Pour ceux qui voudraient entendre.
Venez au Brésil 2 ans, c'est une très bonne école.
Ok.
Venez au Brésil. Non, alors vraiment, c'est une très bonne école pour justement pour créer ce choc et permettre à notre culture française de gagner un peu en élasticité relationnelle, perdre. Et même relativiser. Il y a des sujets aujourd'hui, des sujets typiquement français qui me paraissent complètement loin, mais même avec une espèce de jugement de valeur vain, tu vois, où je vais passer, mais comment je vais utiliser mon prochain, comment on appelle ça, le RTT.
Oui.
Et je me dis, mince, ici, à 15 minutes, il y a une favela, j'ai une employée qui vit dans des conditions misérables. Je lui donne un job, mais je pourrais faire beaucoup plus. Et donc, j'ai en permanence, cette
dualité.
Comment on peut se prendre la tête sur des sujets qui sont si peu importants en Europe, en France, et d'un autre côté, à nos portes, il y a des réalités qui sont tellement, tellement misérables. Il faut faire quelque chose. Alors, je comprends, ça peut être vu comme oh là là, occupe-toi de ton truc, ben voilà. Mais c'est ça, missionnaire. C'est, je peux pas m'empêcher en fait.
Oui, mais quelque part, expatrié, c'est ça aussi. Tu vois comment c'était ton pays ouais. D'original, je dirais, la France et ton pays d'expatriation, et forcément.
Et c'est ça.
Il y a
qui est génial. Des chocs. Mais du coup,
voilà.
Mais du coup, alors là, c'est le conseil, si vous venez au Brésil, c'est vivez avec des Brésiliens. Mais immersion totale.
Ah.
C'est l'immersion totale pendant 2 ans, parce qu'il faut quand même 2 ans pour vraiment se mettre dans le bain. Quoi,
D'accord.
Et ça, c'est une très, très belle expérience, effectivement.
On retient. Pour finir sur ce podcast de Oser entreprendre l'expatriation, est-ce qu'on peut contribuer d'une manière ou d'une autre au développement de l'INCOPAS, même en n'étant pas en étant individuel, je dirais.
Ah, mais oui. Alors, plusieurs manières de contribuer. La première, c'est que l'Ingoverse, on l'a pensé comme étant un espace ouvert, démocratique, accessible, à tous en fait. Donc aujourd'hui, on a plus de Brésiliens qui rentrent, qui s'inscrivent pour pouvoir avoir accès à des workshops de 8h à 21h dans les 3 langues, etc. Mais c'est aussi un espace ouvert à des gens qui ont des choses intéressantes à dire, à partager, qui veulent le partager avec aujourd'hui des Brésiliens, demain des Brésiliens et latino-américains. Donc vous êtes français ou pas français, mais vous êtes capable de parler d'un sujet qui vous passionne en français, en anglais, en espagnol, bienvenue. Donc, écrivez-moi, dites-moi, voilà, moi, ce que j'aime, c'est je suis hyper bon en powerlift. Le powerlift, c'est un type de gymnastique, mais qui a été créé par des Russes et qui travaille beaucoup sur... Je suis un spécialiste de, je ne sais pas quoi, du vin, de la gastronomie. Venez faire des dégustations en ligne, venez faire de la cuisine en ligne, ou nous parler. Si vous avez une voix, j'adore les voix, moi. Vous avez, je regrette pas avoir une super voix. Venez faire de la lecture de textes, nous faire partager, vous voyez, bon.
D'accord.
Donc, c'est une antenne ouverte, c'est le hall d'université où tous peuvent venir et montrer un peu de ce qu'ils ont de mieux, de ce qu'ils font de mieux, de ce qu'ils aiment le plus. Ensuite, on cherche en permanence des profs, des tuteurs, des correcteurs, donc de langue française et qui ont vraiment le goût pour la langue, etc. C'est une chose. On recrute en permanence des stagiaires et on les fait grandir. D'ailleurs, je suis très contente parce que là, on a des stagiaires. Ça fait un an qu'ils font un stage et là, ça y est, ils ont tellement grandi, ils ont découvert tellement de choses qu'on va les recruter officiellement, en fait, voilà, en CDI. Des Français. Après, quoi d'autre ? Si vous avez des idées, si vous voulez contribuer, on a lancé une ONG pour séparer un peu les activités justement sociales. On a lancé une ONG qui s'appelle Instituto Lingopass. Et donc, on va lancer un programme de financement de bourse pour des jeunes de favela, parce que bon, on en a 150, mais en fait, il y en a 5 millions à former. Donc là, il va falloir mettre les gros moyens. Et puis, si vous avez des entreprises, faites-nous confiance, on fait du bon boulot. Voilà. On n'est pas encore connu, là, on commence à peine à faire du branding pour faire connaître la marque Lingopass, mais on est prêt, ça y est, on est prêt, ça marche. On a 3000 élèves, des taux d'engagement incroyables, des taux de progression qui sont fantastiques. Donc, vous êtes à la tête d'une entreprise multinationale, PME, française ou pas française, mais vous avez besoin de former vos collaborateurs. Ben, un seul contact, Lingopass.
Je mettrai le petit, ta petite adresse email voilà, dans l'article et puis dans la suite du podcast. Merci beaucoup Alexandrine pour cet échange riche et hyper passionnant. Franchement, j'ai adoré. Merci d'avoir partagé un peu de ton temps et de ton expérience d'entrepreneuse aussi. Et je suis ravie aussi d'avoir pu mettre en lumière cette mission voilà, vraiment très importante. Et donc, retrouver cette conversation entrepreneuriale sur The Musette. Et si vous voulez en savoir plus encore sur la vie au Brésil avec Alexandrine, c'est dans notre prochain épisode, Chemin d'Expat. Merci beaucoup Alexandrine, à bientôt.
Merci Aline.
Je suis ravie de vous avoir fait découvrir une nouvelle histoire d'expatpreneur. Un grand merci à notre invité de s'être livré avec sincérité et de nous avoir donné plein de bons conseils. Si vous souhaitez soutenir et faire briller nos entrepreneurs aux quatre coins du monde, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur les différentes plateformes. À bientôt pour un prochain podcast d'Expatpreneurs.